stage en médecine intensive réanimation au centre hospitalier universitaire de Tours et vous allez nous parler aujourd'hui du recours au décubitus ventral chez le patient en détresse respiratoire aiguë non intubé en réanimation. Alors première question, quel est le rationnel physiopathologique du décubitus ventral chez le patient non intubé ?
Je remercie la commission jeune de la Société de réanimation de langue française de m'avoir invité pour cet enregistrement de podcast. Pour répondre à cette première question, le rationnel est similaire à celui du décubitus ventral chez le patient intubé, c'est-à-dire en premier lieu une homogénéisation des rapports ventilation-perfusion. En effet, en décubitus ventral, on assiste à une modification de l'aération pulmonaire alors que la vascularisation pulmonaire reste relativement inchangée. Et donc, on a une amélioration de l'hématose, donc de l'oxygénation, qui est un des premiers bénéfices à en attendre au niveau physiopathologique. Alors, chez le patient non intubé, le fait d'être mieux oxygéné peut être un bénéfice immédiat parce que ça peut contribuer à éviter l'intubation dans les situations extrêmes, ce qui est un petit peu différent du malade intubé, hein, où l'oxygénation est pas forcément un objectif premier de la ventilation. Le deuxième rationnel pour faire du DV chez les patients non intubés, c'est éventuellement de réduire les lésions pulmonaires par une homogénéisation des gradients de pression au niveau pulmonaire. Alors ça, il y a peu de données actuelles disponibles chez des patients non intubés. Il y a eu des études faites avec de la tomographie par impédance-métrie qui sont difficiles à mener. C'est des petits effectifs, donc c'est peu étudié. Donc c'est plus par analogie avec ce qui est observé chez le malade intubé, eh bien on pense qu'il y a une homogénéisation des gradients de pression et donc un stress mécanique un peu moindre sur le poumon quand on est sur le ventre. Mais c'est possible que ce soit un peu différent chez les patients non intubés, en particulier parce qu'il y a des efforts inspiratoires et donc des mouvements d'air au sein du poumon qui peuvent être un peu différents que chez le malade curarisé. Et puis, le troisième point qui est là et spécifique chez le patient non intubé, c'est potentiellement une réduction des lésions auto-induites par le patient, donc ce qu'on appelle le PSILI en anglais, pour Patient Self-Inflicted Lung Injury. Et donc ça, c'est une théorie qui dit que le patient a un œdème lésionnel, il a des troubles de l'hématose, il va avoir une commande respiratoire très forte, il va respirer très fortement avec des grands volumes et des grandes fréquences, et que ça peut aggraver l'œdème lésionnel qui lui-même, à nouveau, du coup, va aggraver l'hématose, etc. Et donc, on peut imaginer qu'en mettant les patients sur le ventre, donc c'est une supposition, hein, c'est pas quelque chose qui est prouvé, eh bien, on peut casser un peu ce cercle vicieux en ayant une meilleure oxygénation et donc une baisse de la commande respiratoire et donc moins de lésions induites et donc derrière, voilà, peut-être un cercle un peu vertueux. Donc, voilà les trois éléments qui justifient de s'intéresser au décubitus ventral chez le patient non intubé.
Deuxième question, y a-t-il une place pour le décubitus ventral chez le patient non intubé hors Covid-19 ?
Il y a très peu de données sur l'intérêt du décubitus ventral chez le patient non intubé ne souffrant pas de la Covid-19. Il y avait quelques papiers antérieurs à la pandémie sur des effectifs assez faibles qui montraient la faisabilité sur 20, 30, 40 patients qui étaient soit sous haut débit nasal, soit sous ventilation non invasive, voilà, qui montraient la faisabilité et puis des effets bénéfiques sur l'oxygénation. Donc on ne peut pas, je pense, recommander aujourd'hui de faire du décus ventral de façon systématique chez les patients non Covid-19. Néanmoins, un des enseignements importants des travaux qui ont été menés chez les patients souffrant de la Covid-19 est le fait que le décus ventral chez les patients non intubés est globalement très bien toléré. Il n'y a pas d'accident grave décrit hein, sur des grandes séries. Il n'y a pas d'arrêt cardiaque, il n'y a pas de lésion, il n'y a pas de problème vraiment important. Et donc, c'est plutôt mieux toléré que ce qu'on pensait initialement. Et donc, peut-être, on peut faire l'hypothèse que, y compris chez les patients non Covid-19, c'est peut-être relativement bien toléré. Donc, au cas par cas, chez certains patients, on peut peut-être se poser la question de faire du décutus ventral hors Covid-19 chez les malades non intubés. Néanmoins, il y a pas de données randomisées qui permettent de soutenir cette pratique. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut faire avec la plus grande prudence. Mais comme je le disais, on peut imaginer que c'est probablement relativement bien toléré.
Troisième question, comment sont réalisées ces séances en termes de durée, de placement, de modalité d'oxygénation ou de ventilation non invasive ?
C'est une question très importante. Des données indirectes de l'ensemble des travaux qui ont été menés chez les patients mis en DV de façon non intubée tendent à montrer que la durée par 24 heures de décutus ventral joue un rôle important et qu'il faut mettre les patients durant des durées prolongées, au moins 8 heures chaque jour. C'est les analyses post-hoc des différents essais qui ont été faits qui montrent cela. Donc au moins 8 heures par jour. Et donc la tolérance du patient est centrale et donc il faut aider le patient. Il n'y a pas de placement en soi à recommander pour tous les patients. C'est surtout un échange et une discussion avec le patient pour l'aider à trouver la bonne position. Hein, c'est vraiment ça l'élément clé. Le deuxième point important, et c'est, je dirais, un enseignement de la pratique, hein, il n'y a pas de données qui prouvent ça, mais il faut, je pense, plutôt privilégier des séances longues. C'est-à-dire que, entre guillemets, ce qui est fait n'est plus à faire. Et si on veut atteindre 8 heures par 24 heures, qui est vraiment l'objectif, eh bien, si le matin, on arrive à faire 2 heures ou 2 heures et demie, ou qu'on gratte encore un quart d'heure, 2 heures, 3 quarts, eh bien, c'est tout ça qu'il n'y aura pas à faire plus tard. Et donc, mon conseil, fondé sur l'expérience, est plutôt, il faut favoriser des séances longues, plutôt que de répéter des séances très courtes, parce que finalement, si le matin on ne fait qu'une demi-heure, finalement on ne rattrapera pas ça dans les 24 heures et on n'arrivera jamais à faire 8 heures en 24 heures. Donc des séances longues et répétées, et l'objectif c'est d'arriver à 8 heures et par 24 heures, et donc discuter avec le patient pour trouver le meilleur placement, l'aider à se replacer, etc. Alors les modalités d'oxygénation et de ventilation non invasive, les données les plus solides et les dernières méta-analyses tendent à confirment ça de façon assez nette. Le bénéfice, il est observé chez des patients qui ont des modalités d'oxygénation et d'assistance ventilatoire de degré intensif, c'est-à-dire au débit nasal ou ventilation non invasive. Hein. Chez les patients qui reçoivent de l'oxygène standard, toutes les méta-analyses vont dans le même sens d'une absence de bénéfice du décus ventral. Donc c'est chez des malades sous au débit nasal ou en ventilation non invasive. Et les données les plus solides, très clairement, sont chez des patients sous au débit nasal, ce qui d'ailleurs est plutôt plus simple à mettre en œuvre quand on est sur le ventre. Et puis la ventilation non invasive, je dirais que son usage chez le patient souffrant de pneumonie hypoxémiante reste débattu dans la littérature. Et donc je pense que ce n'est pas la modalité d'oxygénation de premier choix pour le décubitus ventral chez le patient non intubé, puisque, comme on l'a évoqué, à l'heure actuelle, c'est une pratique qui est réservée aux pneumonies virales graves, Covid-19, dans lesquelles voilà, l'usage de la ventilation non invasive reste discuté, même si on sait qu'un grand nombre de praticiens et de services en ont fait, avec beaucoup de succès aussi. Hein. Voilà, mais ça reste discuté et les données sont beaucoup plus solides et beaucoup plus nombreuses, en tous les cas, sous haut débit nasal pour le DV chez le patient non intubé.
Quatrième question, y a-t-il des facteurs prédictifs de succès du décubitus ventral ?
Oui, il y a des facteurs prédictifs modifiables et non modifiables. Le principal facteur prédictif de succès modifiable, on l'a évoqué, c'est la durée quotidienne de décubitus ventral. Et donc, il faut avoir comme objectif de passer plus de 8 heures par 24 heures sur le ventre. Dans les facteurs de risque non modifiables, il y a la fréquence respiratoire qui a été identifiée dans des études post-hoc, des essais randomisés du DV chez les patients non intubés, avec un cut-off à 25 de fréquence respiratoire, c'est-à-dire qu'une fréquence respiratoire inférieure à 25 est associée à un succès plus important. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faudrait pas faire la technique hein, chez les malades qui auraient plus de 25 de fréquence au départ. Mais ça donne des indications. Ensuite, il y a la réponse en termes d'oxygénation et de mécanique respiratoire à la mise en décubitus ventral, qui est un facteur prédictif. Donc là, ce qui a été le mieux étudié, c'est ce qu'on appelle le ROX index. Donc c'est le rapport PaO2 sur FiO2 divisé par la fréquence respiratoire. Et l'augmentation de cet index ROX lorsque le patient est mis en décubitus ventral, c'est un facteur prédictif de succès de la technique, avec un cut-off à 1,25. Donc quand ce ROX index augmente de plus de 1,25 quand on est mis en décubitus ventral, c'est un facteur de succès. Et puis il y a des travaux échographiques qui se sont intéressés à la prédiction de la réponse au décubitus ventral. Et donc la réaération pulmonaire qu'on peut mesurer par différents scores échographiques pulmonaires est également associée à un succès de la technique de décubitus ventral chez les patients non intubés. Alors le succès hein, dans l'ensemble là, des critères que je viens de citer, hein, le succès était défini comme la survie sans intubation à J28. Hein, voilà. Et donc les patients qui, à J3, réaèrent leurs poumons avec des moindres condensations pulmonaires à l'échographie pulmonaire, eh bien, ont un taux de succès à J28 qui est plus important. Donc voilà pour les facteurs prédictifs de succès. Ils sont en partie intriqués avec les durées passées sur le ventre. Hein, bien entendu, des malades, par exemple, avec une fréquence respiratoire basse, eh bien, ont peut-être une meilleure tolérance et peut-être ont tendance à passer plus de temps en décubitus ventral. Les études tendent à montrer ça. Hein, donc c'est assez difficile de faire la part des choses de ces différents facteurs prédictifs. Et en tous les cas, le seul qui est réellement modifiable, c'est la durée passée en DV qui doit être, comme je l'ai dit et répété, au moins 8 heures par 24 heures.
Merci professeur Stéphane Herrmann de nous avoir parlé du décubitus ventral chez le patient non intubé, une technique novatrice qui arrive progressivement dans nos réanimations et on l'espère évitera bon nombre d'intubations. Merci beaucoup.